Alors qu'une partie du monde s'apprête à célébrer les fêtes, une autre partie du monde vit aujourd'hui dans le drame, notamment le drame humanitaire, en particulier un pays, la Somalie. On en parle très peu dans les médias en France, on en parle beaucoup plus dans les médias anglophones et c'est pourquoi nous avons décidé d'évoquer ce pays et plus généralement d'évoquer la famine car aujourd'hui, il faut le savoir, la famine s'étend dans le monde. Mardi 13 décembre, l'ONU alertait sur la situation de crise alimentaire qui touche en particulier la Somalie. Si elle échappe de peu à une famine généralisée grâce à l'intensification de l'aide internationale, l'état de la population est extrêmement préoccupant. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Roland Marchal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à Sciences Po Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique, particulièrement touché donc par la famine et l'insécurité alimentaire. Jean-François Riffaut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'ONG Action contre la faim en France. Votre organisation est notamment présente actuellement en Somalie. Peut-être quelques mots de la situation en Somalie, Jean-François Riffaut, et ce qui fait aujourd'hui Action contre la faim.
La situation, c'est la guerre. La situation, c'est une crise alimentaire majeure, produite par les effets du dérèglement climatique et en particulier une sécheresse qui se répète depuis au moins 5 ans consécutives, sur un lit de pauvreté généralisé. Et avec des déplacements de population importants. Donc aujourd'hui, quasiment 50% de la population est en situation d'insécurité alimentaire, avec différents niveaux de gravité à l'intérieur de ces 50% de population, quasiment 8 millions de personnes. Action contre la faim, nous gérons près de 90 équipes mobiles, soit des cliniques mobiles, soit des centres de prise en charge d'enfants de la malnutrition. Nous avons constaté au cours de l'année 2022 une augmentation de quasiment 100% du nombre de personnes qui sont traitées dans nos centres de traitement thérapeutique. On a vu passer quasiment 220 000 personnes cette année dans nos centres de traitement thérapeutique, essentiellement dans la partie sud du pays, sud-ouest du pays. La situation est dramatique, mais elle est surtout malheureusement emblématique de toutes les mécaniques à l'œuvre qui produisent la faim et l'insécurité alimentaire. Et la Somalie, de ce point de vue-là, est un symbole dramatique d'un processus que l'on retrouve en Afghanistan, au Yémen, au nord du Nigeria, au Burkina Faso, ailleurs dans la Corne de l'Afrique aussi, où se mêlent sur un lit de pauvreté chronique les effets de la crise climatique, l'absence d'accès à des systèmes de santé et l'impact des conflits qui mettent les populations en très grande difficulté.
Roland Marchal, si vous deviez nous présenter la Somalie et nous dire quelle est la situation politique, géopolitique de ce pays aujourd'hui.
Je commencerai par dire que, un peu à l'inverse de ce qui vient d'être dit, on est face à plusieurs types de situations. Vous avez des endroits où la paix civile règne, plus ou moins, enfin plutôt plus que moins. Le nord du pays, pour aller très vite, même s'il y a deux ou trois enclaves problématiques. Dans le sud du pays, vous avez une situation qui est là aussi assez compliquée, à la fois parce que vous avez des modes de production qui sont différents. La zone que vient de citer monsieur est en fait une zone d'agropastoralisme, donc c'est une zone qui est traditionnellement très pauvre. C'est une zone aussi où les sécheresses ont d'emblée un coût important et se reflètent d'emblée par des migrations. Hein, la soudure, en général, elle se fait par les migrations vers les grandes villes pour trouver des emplois pendant quelques semaines. Donc vous avez
la soudure, c'est le moment où
les récoltes, puisque c'est des récoltes, une agriculture par pluie. À l'inverse du reste de la Somalie, par exemple au nord de Mogadiscio, où là vous avez une agriculture irriguée, hein, et au sud de Mogadiscio également. Donc vous avez
ce qui veut dire que c'est une agriculture vivrière extrêmement précaire qui permet peu de...
Pas forcément. Je suis désolé, il faut pas avoir une vision catastrophiste des choses. Les Somaliens se débrouillent. Ils se débrouillent souvent sans l'aide internationale pour des tas de raisons, par des intérêts, pour des problèmes de sécurité.
Et même sans...
Alors il y a un coût humain important. Mais en même temps, il faut quand même se rendre compte que ce pays a un potentiel, que les Somaliens ne sont pas simplement les témoins de leur propre désastre, ils agissent, les réseaux de solidarité sont extrêmement vivaces et vont bien plus que dans le monde urbain. Donc il faut avoir une vision quand même un peu moins plate et un peu moins misérabiliste de ce qui se passe dans ce pays. À part ça, et c'est, je crois, l'élément le plus important dans ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est le fait qu'on est, comme dans d'autres régions du continent, face à une situation où il n'y a pas toujours de sécheresse. Il y a très souvent des pluies qui sont insuffisantes. Donc, s'il faut gérer ça sur un an, c'est pas un énorme problème. La question qui se pose en Somalie, qui se pose au Soudan, au Darfour et dans beaucoup d'autres régions du continent, c'est que vous avez une accumulation d'années où les pluies sont totalement insuffisantes. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en ce moment en Somalie. Vous avez des endroits où il pleut. Et il pleut même bien. Le problème est que si vous regardez sur l'ensemble du pays, ces pluies sont trop faibles, elles sont trop localisées. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas capable de récupérer un écosystème qui va être capable de résister et de développer, de produire ce qu'on attend de lui pour que la population puisse survivre.
Mais alors, d'où vient justement le fait qu'il y a aujourd'hui, alors les chiffres varient entre un peu plus de 5 millions de personnes et 8 millions de personnes en état de malnutrition avec des gradations différentes en Somalie.
Vous l'avez dit au début, le fait que la Somalie, c'est un pays qui est, dont on parle internationalement essentiellement à cause du terrorisme et de Al-Shabaab et maintenant de l'offensive gouvernementale contre Al-Shabaab qui ne concerne pas tout le pays, qui concerne en fait des zones très, très limitées à l'intérieur du pays, essentiellement au nord de Mogadiscio. Si vous voulez attirer l'attention des donateurs, si vous voulez attirer l'attention de l'opinion publique internationale, récolter des fonds, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez dans la dramaturgie plus ou moins misérabiliste pour expliquer que tout le monde est en train de mourir. Et donc, vous avez des chiffres qui, peut-être, reflètent la réalité. Je n'en sais rien, je ne suis pas un expert de ça. Peut-être l'exagère profondément, avec, du côté somalien, une volonté également, sachant comment la fatigue des donateurs, sachant que, bon, si on rajoute un zéro ici, et si on rajoute 100 000 habitants là, peut-être ça ira aussi. Donc il faut, encore une fois, mon message, c'est, moi je suis un analyste, mon message c'est de dire, il faut être prudent dans toute cette cascade de chiffres plus dramatiques que les autres. Il y a peut-être d'abord une constellation de situations locales ou régionales qu'il faut analyser pour ce qu'elles sont, et pas simplement dire que c'est le pays tout entier. Et puis ensuite, il y a des réseaux de solidarité qui ont déjà marché lors de la dernière grande famine qui était en 2011-2012. C'est ces réseaux-là qu'il faut réussir à redynamiser dans un contexte international qui est très difficile compte tenu de l'inflation sur le prix. Et la Somalie est un pays qui importe son malheur du blé russe et ukrainien.
Jean-François Rifou, une réaction.
Non, mais je trouve que l'approche complexe est la bonne. C'est-à-dire qu'en effet, les choses ne sont pas plates et simples et descriptibles avec une phrase et une seule force à l'œuvre. Et ce que je retiens aussi, c'est que heureusement, les gens ne sont pas que victimes de leurs propres conditions. Et heureusement, et c'est très bien de le rappeler, et on est les premiers à le faire, que d'abord les personnes sont en charge de leur propre destinée et que c'est une posture que chez Action contre la faim, mais que dans la plupart des grandes ONG, nous avons aussi. Cependant, on constate en Somalie, comme dans de nombreux autres pays, une dégradation de la situation de sécurité alimentaire, donc une augmentation de l'insécurité alimentaire au sens global, en termes purement quantitatifs. Il y a plus de monde sur Terre aujourd'hui qui ne se nourrit pas correctement. Et à l'intérieur de ce grand nombre de personnes, qui est au-delà de 850 ou 820 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, des situations plus graves, donc des niveaux de gravité dans l'insécurité alimentaire, de plus en plus de personnes sont également touchées par des niveaux plus graves d'insécurité alimentaire. Donc ça, c'est une réalité. Mais en effet, ce n'est pas une réalité homogène partout en Somalie, ce n'est pas une réalité homogène partout au Burkina, ce n'est pas une réalité homogène partout en Afghanistan. Pour autant, Pour autant, c'est une réalité qui se dégrade. Et ce qui, moi, m'intéresse et ce qui nous intéresse chez Action contre la faim, c'est à la fois d'être capable de porter secours et de sauver des vies à côté des communautés, avec les communautés, mais aussi d'agir sur les causes. Et de ce point de vue-là, je le redis, il me semble que la Somalie, même si en effet l'ensemble du pays n'est pas en guerre, mais il me semble que la Somalie est assez illustratif des mécaniques à l'œuvre, une association entre eux, des questions de sécheresse et d'impact climatique, un lit de pauvreté massif et une difficulté d'accéder aux soins et d'accéder aussi à l'aide internationale.
Roland Marchal, expliquez-nous quel est le cadre politique justement en Somalie. Vous évoquiez la lutte entre le pouvoir et les djihadistes. Quel est donc le cadre de cette lutte et quelles sont les conséquences de cette situation politique ? Vous avez des cartes sous vos yeux.
J'ai des cartes, c'était plutôt pour regarder si je pouvais annoncer un scoop avec une bonne nouvelle enfin pour ce pays, qui ne viendra pas parce que la situation va se détériorer au printemps. Non, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que d'un
Pourquoi
point de vue...
Qu'est-ce qui va se passer au printemps ?
Les pluies, vous avez une grande saison de pluie au printemps qui va être sans doute ridiculement faible. Et donc, la carte que vous voyez aujourd'hui, qui est réalisée par les experts...
Il faut la décrire parce qu'à la radio, on la voit.
Voilà, mais vous filmez les intervenants et pas leur bureau. Mais en bref, disons, ce qu'on peut dire, c'est que la saison des pluies va être mauvaise. Et donc, il faut s'attendre, en fait, à une détérioration significative de la situation sur la grande majorité du pays où, pour l'instant, il y a des tensions très fortes, mais auxquelles on peut répondre par l'immigration, par l'aide, par les solidarités claniques, etc. Le déstockage, enfin bon, il y a différentes techniques.
C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui donc de malnutrition et non de famine en Somalie.
Et donc
mais si on en parle quand même pour un nombre important d'habitants, donc voilà. Je l'ai dit, entre 6 et 8 millions.
La solution n'est pas la même, évidemment. Si vous êtes au Somaliland, vous êtes dans une situation de disons, à quelques poches près de paix civile. Donc ça veut dire que l'aide, le commerce fonctionne bien, l'aide éventuelle peut arriver. La question que vous avez, c'est l'accès des gens, des citoyens ou des familles au marché avec la question du prix des denrées qu'on peut leur proposer. Mais fondamentalement, si vous voulez, on peut être relativement serein. C'est une histoire politique à part depuis le début de la guerre civile. Vous avez aujourd'hui le nord-est, donc ce qu'on appelle le Puntland, qui lui aussi a une trajectoire politique à l'intérieur de la Somalie, donc qui a des relations avec Mogadiscio qui se sont notoirement améliorées depuis l'élection d'un nouveau président le 15 mai. C'est une zone pratiquement désertique avec un port extrêmement actif. Et là aussi, il y a des mécanismes locaux qui font, et puis il y a une relative sécurité qui permet, disons, aux ONG de travailler, même s'il y a une protection militaire. Mais fondamentalement, encore une fois, il y a des enclaves. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire l'essentiel, hein, puisque là, on est à peu près à 3 millions et demi de population. Tout le reste de la Somalie, c'est-à-dire 8, 9, 10 millions, enfin, puisque les chiffres n'ont plus grand sens. Et alors là, vous avez des situations qui sont beaucoup plus compliquées. Largement à cause de compétition politique, je dirais simple, de la présence de Shabab, d'une offensive contre Shabab. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui se passe avec l'actuel président. Et puis également avec des modes de production qui sont très différents. C'est-à-dire vous avez, je m'excuse d'insister là-dessus, des zones qui sont pastorales et puis vous avez des zones d'agriculture qui jouent un rôle stratégique dans l'alimentation de la population. Mmh. On y produit par exemple ces fameuses bananes que plus personne n'aime, mais qui sont un merveilleux aliment. Et les gens mangent des pâtes, qui est aussi un aliment très bon marché, enfin relativement bon marché maintenant. Et ce sont deux aliments qui jouent un rôle extrêmement important dans la nourriture des Somaliens de base.
Mais alors, Roland Marchal, pour que l'on comprenne bien, est-ce que cette lutte entre donc le pouvoir et les Shababs, est-ce qu'elle est la cause, la conséquence de la désorganisation du pays ? Est-ce qu'il faut se représenter ça comme une situation donc de guerre civile ? Est-ce que c'est beaucoup plus localisé ? Bref. Comment pourrait-on se représenter aujourd'hui la situation ?
La crise climatique, elle est globale. De toute façon, quel que soit le régime politique là-bas, même si notre président décidait de gouverner ce pays, ça serait la même chose. Donc, et après, vous avez la politique ou la guerre qui rendent un certain nombre de choses beaucoup plus difficiles. Mais le fond du problème, il faut bien s'en rendre compte, c'est pour ça qu'il faut avoir une approche à long terme de cette question. Le fond du problème, c'est effectivement le changement climatique, c'est des phénomènes de désertification, c'est des phénomènes d'urbanisation massive qui imposent des dépenses de ressources aquifères qui sont trop importants pour ce pays. Et c'est ce type de problème qu'il faut soulever et qu'il faut essayer de gérer avec les autorités de ce pays. Shabab, c'est quelque chose en plus pour lequel on a dépensé beaucoup d'argent, peut-être pas de la meilleure façon, mais de toute façon, c'est un problème qui est relativement annexe.
Jean-François Riffaut, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes le directeur général d'Action contre la faim? Comment fait-on pour justement travailler, si on travaille avec eux, avec les pouvoirs en place, comment fait-on pour justement venir en aide à ces populations qui font face à une situation de malnutrition aujourd'hui?
D'abord, on est des acteurs locaux, c'est-à-dire que même si nous sommes des organisations non gouvernementales internationales, 95% des équipes sont des équipes locales, des nationaux. En Afghanistan, ce sont des Afghans, en Somalie, ce sont des Somaliens, etc., etc. Donc ça, c'est un point important parce que cela dit la capacité d'acceptance de la population, mais aussi la capacité de nos propres équipes de connaître la réalité. Et de connaître la réalité, et pas uniquement locale au sens au niveau du pays, mais aussi locale au niveau parfois de la province ou du district, et aussi du coup de l'usage de la langue et du dialecte. Donc ça, la question de cette forme de localisation est extrêmement importante parce que cela nous donne la capacité d'être intégrés dans les dynamiques sociales de ces pays, en Somalie comme ailleurs. Mais l'autre point sur lequel je souhaite insister, c'est que on présente souvent les questions d'insécurité alimentaire grave de manière extrêmement dramatisante et en les limitant uniquement à des crises humanitaires. Certes, oui, bien entendu, et c'est épouvantable et c'est inacceptable et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour sauver des vies aux côtés des populations qui se sauvent elles-mêmes aussi. Et donc nous sommes dans une situation de multiples crises humanitaires urgente en matière de sécurité alimentaire. Cependant, ces crises humanitaires ne doivent pas cacher une crise qui, pour moi, est beaucoup plus grave, qui est une crise systémique. Et ce ne sont pas les humanitaires qui vont régler la crise systémique, qui est celle qui se situe à la rencontre de la crise climatique qui produit ses effets délétères, à la rencontre des conflits, qui sont aussi une source éprouvée, malheureusement, dans de nombreux contextes d'insécurité alimentaire, et de pauvreté et d'injustice sociale. Et donc, c'est pour ça que chez ACF, nous sommes à la fois extrêmement actifs pour être en première ligne, pardonnez-moi l'expression, mais pour effectivement, autant que possible, sauver les enfants qui meurent de faim, et pour que là où ils sont partis pour mourir, eh bien, ils ne meurent pas, mais nous essayons de travailler aussi autant que possible sur cette machine, sur ce processus qui produit des enfants malnutris. Mais ce processus, il n'est pas que humanitaire. Et donc l'enjeu, c'est de faire comprendre à l'ensemble des acteurs, les États, le secteur marchand, le secteur privé, la société civile aussi, que le système agro-industriel, que le comportement des uns et des autres, que le secteur marchand aussi, doit prendre ses responsabilités pour que le système cesse de produire la faim.
Jean-François Riffaut, directeur général d'Action contre la faim. Roland Marchal, chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Olivier Tschouter, rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. On va évoquer la manière dont la famine s'étend aujourd'hui dans le monde. En Somalie, on vient d'en parler, en Afghanistan, au Yémen. Je dois vous dire que vous avez la possibilité aussi d'entendre ou de réentendre le grand reportage de la rédaction réalisé par Véronique Robérotte, en Somalie, l'impossible adaptation au réchauffement climatique. C'est sur le site de France Culture et l'appli Radio France.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous continuons donc à parler des causes de la malnutrition, de la famine. On va d'ailleurs donner des définitions précise de ces situations. Nous sommes en compagnie de Jean-François Riffaut, directeur général d'Action contre la faim, et nous accueillons Olivier de Scutter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme en duplex avec nous, alors que le Yémen, l'Éthiopie ou encore l'Afghanistan sont déjà victimes de famines dévastatrices, l'insécurité alimentaire s'étend dans le monde et touche à présent plus de 345 millions de personnes. Le monde fait-il face à sa pire crise alimentaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Olivier de Schutter, si vous deviez justement nous présenter ce que fait l'ONU en matière de lutte contre l'extrême pauvreté, le rôle en quelque sorte, de votre mission.
Oui, bonjour. Écoutez, le rôle consiste à alerter les gouvernements sur la nécessité d'investir plus en protection sociale, mais aussi d'inciter la communauté internationale à se doter d'outils préventifs. Cette crise est dramatique, mais cette crise, on aurait pu l'anticiper et l'on aurait pu éviter des situations comme la situation actuelle où le Programme alimentaire mondial, qui est la principale agence des Nations Unies chargée de gérer les crises alimentaires, doit frapper aux portes des donateurs au moment où la crise s'annonce, doit attendre des semaines pour que l'argent lui soit promis et ensuite doit encore prendre des semaines pour acheter des produits agricoles, des denrées alimentaires pour ensuite en assurer la logistique de distribution. Et finalement, entre l'alerte, la crise et le moment où le soutien peut arriver aux populations se déroule pratiquement 4-5 mois qui sont des mois extrêmement cruciaux que l'on perd. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que la communauté internationale n'a pas, jusqu'à présent, un outil permettant de répondre de manière rapide à ce genre de crise. Et donc, les populations se déplacent, les gens migrent parce qu'ils n'ont pas de quoi survivre là où ils se placent. Et une fois que des gens quittent les territoires qu'ils occupent, ça devient très, très difficile de revenir au statu quo, à la situation d'avant, parce que ces gens sont dans des camps de réfugiés où ils dépendent complètement de l'aide humanitaire. Donc ce qui est scandaleux, c'est pas simplement qu'il y ait plus de 300 millions de personnes qui soient aujourd'hui menacées de famine, c'est que l'on n'est toujours pas un outil efficace de prévention de ce genre de crise.
Jean-François Riffaut, justement, s'il fallait nous donner des définitions de la malnutrition, de la crise alimentaire, de la famine, vous qui êtes directeur général d'Action contre la faim, faites-nous des distinguos sur ces différents termes.
D'abord, juste avant de répondre à cette question, je crois que ce qu'on vient d'entendre confirme que la crise alimentaire va plus vite que la réponse humanitaire. Et que c'est bien ça l'enjeu, c'est qu'il faut être capable d'anticiper, mais aussi d'avoir des moyens de réaction beaucoup plus rapides. Et ils ne sont pas que financiers, ils sont financiers, mais pas uniquement. Et que ce que l'on constate depuis plusieurs années, c'est que la crise alimentaire va beaucoup plus vite que la réponse humanitaire. Maintenant, en effet, comme vous le dites, il y a différents niveaux de gravité de situation de crise alimentaire ou d'insécurité alimentaire. Le pire niveau, qui est le mot que le grand public utilise le plus souvent, c'est le mot de famine. Le mot de famine, il correspond à un degré très particulier, le plus grave, dans une classification qu'utilisent les Nations Unies, mais aussi les grandes ONG comme Action contre la faim. Ça, c'est une classification qui s'appelle IPC, c'est la classification intégrée des niveaux de crise alimentaire. Et donc, cette classification, elle regarde trois paramètres. Elle regarde sur un territoire donné, elle regarde le nombre de foyers en situation de manque grave d'aliments. Grand 1. Deuxième paramètre, le pourcentage d'enfants en situation de malnutrition aiguë sévère. La malnutrition aiguë sévère, c'est une maladie produite par le fait de ne pas manger. Et elle regarde cette classification. Un troisième paramètre, c'est le pourcentage de personnes, toujours dans ce périmètre donné, le pourcentage de personnes qui meurent par jour. Et lorsque ces chiffres, c'est-à-dire que le nombre de foyers est supérieur à 30% des foyers qui n'a pas suffisamment d'aliments pour se nourrir. Lorsqu'il y a plus d'un foyer sur cinq qui n'a pas suffisamment pour se nourrir, lorsqu'il y a plus de 30% d'enfants sur ce même territoire en situation de malnutrition aiguë sévère, et lorsqu'il y a plus de 4 enfants pour 10 000 qui meurent de faim chaque jour, lorsque ces trois paramètres sont réunis, on est en situation d'IPC 5, niveau 5, et donc on est en situation de famine. Ça veut dire qu'il y a des niveaux préalables, 4, 3, Et le niveau 3 est le premier niveau d'urgence. Et les acteurs humanitaires et les Nations Unies conduisent ces analyses-là, pas au quotidien, mais conduisent très régulièrement ces analyses-là pour connaître la situation des populations et organiser la réponse et les appels au financement en fonction de cette situation-là. Et aujourd'hui, les poches de famine sont de plus en plus nombreuses dans un certain nombre de pays, qu'il s'agisse d'Asie centrale, d'Afrique de l'Est ou d'Afrique.
Alors, est-ce que ça signifie justement que dans le monde aujourd'hui, la situation de famine que vous venez donc de décrire, IPCC 5, celle-ci, elle représente combien de millions de personnes aujourd'hui ?
Je vous dirai une bêtise, donc c'est pas le but du jeu. Je ne sais pas vous dire au niveau global le nombre de personnes vivant dans des situations d'IPCC 5. Il y en a certainement plusieurs millions. En revanche, ce que l'on sait, c'est que lorsque le chiffre global augmente, on sait que le chiffre à l'intérieur les niveaux de gravité augmentent également. Et le chiffre global, il augmente depuis 5 ans. On est aujourd'hui à 828 millions de personnes qui se nourrissent pas suffisamment. Et on est, les 300 millions que vous indiquez, sont un degré supplémentaire de gravité.
Et justement, Olivier de Schutter, vous qui êtes rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, cette situation est une situation qui empire, puisqu'il y a quelques mois encore, on considérait, avant que la guerre en Ukraine ne provoque un renchérissement des denrées alimentaires, on considérait que la question de la famine était aujourd'hui une question en grande partie, non pas réglée, mais en voie de règlement.
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a une situation sur les marchés des produits agricoles qui s'est un peu normalisée quand même depuis quelques mois, depuis, je dirais, le pic des prix qui a été atteint au mois de mars-mai 2022. Aujourd'hui, l'index des prix alimentaires de la FAO est à peine plus élevé qu'il ne l'était il y a un an, en novembre 2021. L'augmentation est de 0,3%, c'est-à-dire qu'on reste dans une situation relativement stable au niveau des prix. On a passé le pic le plus difficile.
Ah oui. Ce qui veut dire, pardonnez-moi, vous êtes en duplex, Olivier de Schutter, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, à l'échelle du monde entier, il n'y a pas d'inflation alimentaire ?
Alors, il y a une inflation un peu plus forte pour les céréales, où l'augmentation a été de 6,3%. Mais la véritable explication du renchérissement du prix des produits alimentaires se situe non pas au niveau des produits agricoles et des matières premières, mais se situe au niveau de la transformation, la distribution, la spéculation également qui explique une partie de la hausse des prix.
Ah oui, mais ça peut, concentration. Dès lors, au final, ça peut provoquer une augmentation du prix, puisque par exemple, on évoquait le renchérissement du prix de la viande de poulet qui est lié donc aux céréales, mais aussi au fait qu'il faut réfrigérer cette viande et donc utiliser de l'énergie. Bref, au final, on peut assister, Olivier de Schutter, à une augmentation du prix de ces denrées alimentaires.
Absolument, et cette inflation, elle est très forte pour les denrées alimentaires dans le monde en général, où les prix des denrées alimentaires augmentent plus vite que l'inflation en général. Mais cela ne tient pas à une rareté des produits agricoles dans le monde. Ça ne tient pas à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela tient, par contre, à la manière dont les systèmes agroalimentaires sont organisés, la concentration très forte dans ce secteur au niveau des grands traders de céréales, au niveau aussi de l'industrie de transformation et la grande distribution. C'est là, au fond, qu'il faut porter le fer, parce que c'est là que l'inflation d'aujourd'hui trouve son explication principale. On n'est pas dans une situation de pénurie à l'échelle mondiale, et en fait, à part une chute explicable facilement par le conflit de production de maïs en Ukraine, on a des niveaux de production en 2022 qui sont relativement stables par rapport aux années précédentes et qui restent donc assez bons en général.
Jean-François Riffaut.
La raison pour laquelle la crise alimentaire dans laquelle on est n'est pas que une crise humanitaire, et la raison pour laquelle c'est une crise politique, c'est parce qu'il y a à peu près 10% de la population du monde qui ne mange pas à sa faim, alors que le monde gâche 30% de ce qui est produit. Il y a d'un côté 800 millions, plus de 800 millions de personnes.
10% d'humains.
Oui, à peu près 800 millions de personnes, donc quasiment 10% de la population qui ne mange pas à sa faim, avec différents degrés de gravité. Et de l'autre côté, 30% de la production d'aliments qui est gâchée. Et donc, on voit bien que ces deux éléments-là, ces deux chiffres-là, traduisent une réalité insupportable.
Jean-François Riffaut, est-ce que ce chiffre de 800 millions, il est en progression?
Oui, il est en progression. On était à 630 millions en 2016, en 2017, et nous sommes à 838 ou 828 millions en 2021.
Donc, augmentation sensible.
Donc, en augmentation sensible, parce que la faim n'est pas uniquement une fatalité, parce que la faim, c'est la somme de paramètres qui aujourd'hui se dégradent dans la plupart des pays qui sont les plus pauvres. Ces paramètres sont les conflits. Il y a une corrélation avérée entre la présence de conflits armés et le nombre de personnes luttant contre la faim. La pauvreté, l'impact du changement climatique, mais aussi l'accès aux droits et les systèmes de protection sociale. Et quand je parle de l'accès aux droits, je parle de la variété d'accès aux droits, au pluriel, des personnes et des femmes en particulier. Et que donc ces paramètres-là aujourd'hui s'aggravent. Et c'est d'autant plus inacceptable de voir que le monde a cependant la capacité de répondre à ça. La capacité de répondre à ça, c'est de corriger, c'est de réguler les marchés, comme cela vient d'être dit, c'est d'avoir un impact sur le prix des denrées, des matières premières, mais aussi le prix des produits finis, et c'est de travailler sur l'ensemble des systèmes qui aujourd'hui contribuent à la fois à augmenter le dérèglement climatique et donc, par voie de conséquence, à augmenter la faim dans le monde.
Olivier de Scutter, donc ce chiffre qui est en augmentation, comme vient de l'évoquer Jean-François Riffaut d'Action contre la faim, et l'ONU l'explique également du point de vue politique, parce que on a donc bien compris qu'il n'y avait pas aujourd'hui de manque d'aliments à l'échelle du monde entier. Donc, est-ce que c'est une question donc d'insuffisance des politiques, voire d'abandon des politiques? Est-ce que c'est une question liée aux différents conflits dans le monde? Comment expliquer cette progression donc de nombre de personnes souffrant de la faim?
Écoutez, l'explication principale, c'est simplement que les États n'ont pas investi suffisamment dans la protection sociale. Les 828 millions de personnes qui souffrent de sous-alimentation dans le monde, ce sont des personnes dont le pouvoir d'achat n'est pas suffisant pour faire face à des prix alimentaires trop élevés pour elles. Et ceci, dans un contexte où l'inflation mondiale progresse, est encore plus vrai. L'OIT estime que pour la première fois depuis plus de 20 ans, les salaires réels à l'échelle mondiale vont diminuer de près de 1% en 2022, et dans l'Union européenne, la réduction des salaires réels est de 2,4%. Les salaires nominaux vont augmenter un peu, mais cette augmentation des salaires nominaux ne compense pas l'inflation des prix alimentaires. Donc, le vrai problème à l'échelle mondiale, c'est l'absence d'une protection sociale suffisante, l'absence de législation sur les salaires minima requis pour conduire une vie digne. Et au fond, ça, c'est une question qui n'est pas technique, qui ne dépend pas des agronomes ou des ingénieurs. C'est une question politique. C'est une question de volonté des gouvernements de mieux protéger les personnes en pauvreté contre les risques de prix alimentaires trop élevés. Aujourd'hui, c'est cela l'explication principale de notre incapacité à réduire les chiffres de la faim dans le monde.
Mais on a l'impression, mais c'est peut-être un stéréotype, on a l'impression que beaucoup de ces pays, le Yémen, la Somalie qu'on vient d'évoquer, sont dans des situations politiques tellement complexes que le gouvernement n'a plus véritablement le pouvoir, Olivier de Scutter, de faire ce que vous venez d'évoquer, autrement dit une intervention sur les prix alimentaires, voire on a l'impression qu'on a affaire à des États faillis qui provoquent une certaine anomie et renforcent encore la désorganisation des marchés alimentaires.
Vous avez évidemment raison, mais sur ces 828 millions de personnes en situation de sous-alimentation, c'est une faible proportion qui est dans ces États que vous citez, comme la Somalie, le Yémen, l'Afghanistan, où les gouvernements sont inexistants, les conflits persistants et l'incapacité de gouverner le pays réel. La plupart de...
Vous diriez que c'est une faible part, ça veut dire... Alors, je ne vais pas vous demander des chiffres impossibles à trouver, mais si vous deviez qualifier cela, quelle est la part de personnes souffrant de malnutrition qui habitent justement dans des pays où l'État est failli ou empêché par la guerre? Est-ce que c'est possible de nous dire cela, Olivier de Scutter?
Mais dans ces pays qui sont en situation de quasi-écroulement, il y a probablement 35 millions de personnes, 40 millions de personnes peut-être, qui exigent une aide humanitaire d'urgence, parce que le gouvernement n'a pas les moyens d'agir. Dans tous les autres pays, les gouvernements ont les moyens d'agir, et ils n'ont pas la volonté politique de le faire, et ils ne bénéficient pas d'un soutien suffisant de la communauté internationale. Vous savez, depuis des années, nous plaidons pour un fonds mondial pour la protection sociale. La France, du reste, a investi beaucoup de capital politique dans ce projet, qui consiste au fond à doter les pays qui veulent investir dans la protection sociale d'un outil financier leur permettant de financer cette protection sociale. Je regrette que cette idée n'ait pas suffisamment progressé et qu'une fois de plus, face à une crise, une augmentation des prix alimentaires, l'on prétende se trouver démuni alors qu'on aurait pu prendre ces mesures en amont, parce que la crise, on ne sait pas quelle forme elle va prendre, ni quand elle va se développer, mais on sait qu'elles vont se répéter à l'avenir, ces crises liées à des phénomènes, notamment climatiques.
Et alors ça veut dire, Jean-François Riffaut, par exemple, que l'on peut souffrir de la faim dans un pays, non seulement qui a les moyens de donner à manger à tous, mais aussi qui est relativement prospère. Est-ce que, par exemple, on souffre de la faim encore en Inde, au Brésil, est-ce que ce sont des pays où on a encore des poches de malnutrition? Donnez-nous des exemples de ces pays en dehors de ces 35 millions de personnes qui vivent dans des états faillis, je fais vite.
Oui, l'Inde est le pays où, dans lequel on trouve le plus grand nombre d'enfants en situation de malnutrition. Alors de malnutrition modérée, pas nécessairement de malnutrition aiguë sévère, mais c'est lié aussi à la quantité, à la taille de la population indienne. Mais bien entendu, il y a un grand nombre de pays où l'absence de filets de protection sociale, l'absence de système de protection sociale, et en gros la pauvreté, entretient la pauvreté et que donc les populations ne sont pas en mesure de faire face au choc. La question des systèmes de protection sociale, c'est d'abord une question de protection des populations face à des risques qui se réalisent, à des chocs. Et lorsque les chocs, qu'il s'agisse de chocs climatiques, de sécheresses qui se répètent, de guerres, de conflits qui ont lieu, s'il n'y a pas de protection sociale et que sur ce lit-là, la population est déjà extrêmement pauvre, en Somalie par exemple, 68% de la population vit avec 1,9 euros par jour. Donc imaginez une population avec ce faible niveau de ressources, sans accès à de la santé, sans protection sociale, confrontée à 5 années de suite de sécheresse. C'est ça la mécanique.
Mais
donc,
alors,
la question est politique parce qu'elle est sociale.
Là, on la comprend bien, Jean-François Riffaut, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est la situation des 800 autres millions de personnes, celles qui vivent dans des pays qui ont aujourd'hui une situation de paix et qui pour autant ne mangent pas leur faim.
Vous évoquiez l'Inde. Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple que ça. Les endroits où les personnes ne mangent pas leur faim, alors je ne vais pas faire la liste de pays, mais ça va de l'Inde à l'Afghanistan, en passant par le Cameroun, en passant par le nord du Nigeria, en passant par la Somalie, en passant par Madagascar, par le Zimbabwe, par le Yémen, par la Libye, par le Liban, par la Syrie, par l'Irak, etc. Donc il y a probablement une cinquantaine, une soixantaine de pays dans le monde.
En Amérique latine?
En Amérique latine aussi, en Colombie, au Venezuela, dans certains pays d'Amérique centrale. Et je ne dis pas dans l'ensemble de ces pays-là. Lorsque je cite un pays, il y a des endroits. Non, mais juste pour bien préciser. Il y a aussi des personnes qui ne mangent pas correctement en France. Il faut, vous le savez aussi, en Ukraine, avant le début du conflit, il y avait 1 million de personnes à l'est de l'Ukraine qui étaient en situation de besoin d'aide humanitaire. Avant le début de l'invasion russe en Ukraine, il y avait 1 million de personnes qui étaient en situation de nécessité de l'aide humanitaire. Et donc, il y a une corrélation évidente entre l'extrême pauvreté, la fragilité des communautés et en particulier l'insécurité alimentaire et la capacité des États de protéger leur population.
En Chine encore ?
En Chine certainement. En Chine, certainement. Vous voyez, je vous dis certainement parce que notre capacité d'accès au pays est relativement limitée. Mais en Chine, certainement. Je veux juste prendre un exemple aussi qui, moi, me semble très important pour que chacun puisse bien comprendre. J'étais à Kaboul encore au début du mois de septembre. Il y a de la nourriture dans les rues de Kaboul. Il y a de la nourriture dans les rues de Kaboul. Il y a de la nourriture dans les rues de Chakchahran, qui est la capitale de la province de Rohr, dans le centre du pays. Mais il y a des gens devant ces étals de nourriture qui ont les poches vides. Et c'est la même chose au Burkina Faso, c'est la même chose au Nigeria, c'est la même chose au Yémen. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des produits qui sont produits et qui poussent sur place, mais les gens devant ces produits-là ont les poches vides. Et de l'autre côté, il y a des paysans que nous accompagnons chez Action contre la faim en Afghanistan qui ont réussi à faire la moisson cet été et qui avaient du blé devant eux et qui me disaient « Nous sommes extrêmement heureux des travaux que nous avons faits avec les gens d'ACF. En revanche, nous n'avons personne pour acheter notre blé. »
Un mot de conclusion, Olivier de Scutter, sur ces situations qui sont des situations très dissemblables, donc de l'Afghanistan à la situation en Inde ou encore en Ukraine.
Oui, effectivement, ce sont des situations dissemblables. Je crois que la clé, c'est de comprendre que l'on n'a pas investi suffisamment depuis des années dans la production alimentaire locale. En fait, tous les choix des gouvernements ont été orientés par l'obsession de produire pour l'export. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire favoriser les grands agriculteurs, les grandes exploitations agricoles pour des cultures de rente, le cacao, le café, le tabac, etc., pour satisfaire les demandes des marchés mondiaux et rapporter de devises permettant de rembourser la dette. Et on n'a pas suffisamment investi dans les productions vivrières locales. Et donc, quand des pays exportent des matières premières agricoles, mais ne soutiennent pas leurs petits agriculteurs pour produire la patate douce, le sorgho, le mil, dont les populations dépendent, ces pays sont pris au piège quand les prix augmentent sur les marchés internationaux. Et la clé, c'est cela, c'est investir dans cette agriculture familiale pour bâtir la résilience et la sécurité alimentaire à l'échelle locale.
Merci beaucoup Olivier de Scutter. Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Et merci beaucoup Jean-François Riffaut, directeur général d'Action contre la faim.